Vieilles Branches, une production Nouvelles Écoutes en partenariat avec Radio Nova.
Votre approche de la vie, de l'instant, de la planète où nous vivons, change. Alors en tous les cas, jeune fille, n'ayez pas peur de la mort. La mort est une porte.
Je ne suis pas celle qui chante, ni celle ou celui qu'on dit.
Pour cet épisode de Vieilles Branches, je suis arrivée dans le studio d'enregistrement après Sheila, ce qui était un peu gênant. Sheila qui est toujours très ponctuelle, elle le doit à ses parents, alors que moi, moyen, mais je promets, j'étais à l'heure. Sheila, indissociable de la France yéyé, des playlists de mariage. Sheila, dont par ailleurs, j'imagine, peu connaissent la carrière entière et ses rebondissements. Et d'ailleurs, alors que je réécoutais notre entretien, les réseaux bruissaient de l'audience de Britney Spears pour qu'on lui retire sa tutelle, où elle racontait son calvaire, sa vie emprisonnée par un entourage peu porté sur son bien-être. Alors si Sheila ne parle jamais de sa jeunesse comme ça, si surtout elle a gagné sa liberté, le récit de ses premières années de vie de chanteuse ultra populaire sous le joug d'un manager qui contrôlait tout, y compris son argent, a eu soudain quelque chose de très familier, quelque chose de déjà vu, déjà entendu. La vie de Sheila, c'est donc aussi l'histoire d'une émancipation, mais elle le raconte beaucoup mieux que moi.
Je ne suis pas celle qui danse à la scène, mais à la ville, je suis celle qui balance entre la mort et la vie. Au petit malheur, la chance, le French cancan, un jour, sa nuit.
Vieille branche chez moi.
Vieille branche.
Une vieille branche.
C'est vraiment bon, une vieille branche.
Dans ma tête, j'ai toujours 18 ans.
Bonjour. Vous écoutez Vieilles Branches. Pendant une heure, je vous emmène chez un homme ou une femme dont les souvenirs racontent notre histoire.
J'ai pris une fois de cocaïne, ça ne me fait rien.
De tout, de la
je
vie.
Suis encore désirable.
Évidemment que c'est important.
Récolter ces paroles aujourd'hui, c'est aussi précieux qu'absolument nécessaire. Parce que depuis 4 ou 5 ans, chaque année qui passe rend cette citation d'Antoine Gramsci plus limpide, parfaitement adaptée à la drôle d'époque qu'on vit. Le vieux monde se meurt, le nouveau monde tarde à apparaître, et dans ce clair-obscur surgissent les monstres. Et pour les terrasser, ces monstres, ou au moins les tenir à distance, voire même les apprivoiser, écouter les mots de nos vieilles branches, qui forment ensemble notre mémoire collective, c'est un véritable bouclier.
Ah, vieilles branches !
Nous allons discuter sans tabou, mais avec bienveillance de leur vie, de l'amour, de la mort, de ce monde qu'ils ont connu et qui n'est presque plus, de leurs souvenirs d'enfants, de leur adolescence, de leurs amis, de leur passion pour l'art, la musique, les mots, la politique, du regard qu'ils portent sur l'époque, sur les jeunes, sur les combats qui se préparent. Parce que la beauté de l'âge, c'est qu'il libère la parole, et c'est ça que vous entendez dans Vieilles Branches. Je suis Marie Misset, et aujourd'hui, je suis en studio avec Sheila. Bonjour Sheila.
Bonjour, comment ça va ?
Bah, très bien, et vous ?
Eh ben, écoutez, bien, il fait beau, on est content, on est libre chaud, enfin, oui. Donc tout va bien.
C'est vrai qu'on est enfin libre. Ou plutôt, devrais-je dire, Annie Chancel, quel plaisir de vous rencontrer. Vous fêtez vos 60 carrières avec un album qui est sorti en...
Mais 60 ans de carrière.
J'ai dit quoi ?
60.
J'ai juste dit 60.
Oui.
Vos 60 carrières. Cela dit, c'est pas tout à fait faux non plus.
C'est pas faux, c'est bien, mais si vous mettez en, c'est-à-dire que c'est un peu plus compréhensible.
Vous fêtez... Mais on va y venir à vos 60 carrières, justement. Vous fêtez vos 60 ans de carrière avec un album qui est sorti en avril, qui est presque autobiographique. Il y a le vinyle qui sort aujourd'hui, jour de notre entretien. Ça s'appelle Venu d'ailleurs, album pour lequel, entre autres, Nile Rodgers, votre ami de plus de 30 ans, vous a écrit Law of Attractions, titre ouais. Qui, à moi, m'a beaucoup plu. Annie Chancel, tout le monde vous connaît sous le nom de Sheila, dont la vie peut ressembler peut-être de loin à un conte de fées moderne, petite marchande de bonbons devenue superstar. Tout le monde peut fredonner L'école est finie, comme les rois mages en Galilée, vous, les copains, je ne vous oublierai jamais. Mais vous êtes en même temps assez mystérieuse, et votre vie d'ailleurs n'est pas rose bonbon, pour reprendre un thème qu'on va pas trop filer longtemps comme métaphore. Les chagrins, la douleur l'ont marqué comme toute autre existence, hein. Mais souvent, ils ont disparu derrière votre personnage à vivre, votre bouclier aussi, sans doute, j'imagine, Sheila. En 60 ans de carrière, vous avez vécu, on disait 60, mais j'avais réduit à une douzaine de vies. Chanteuse de yéyé, reine du disco, bête de scène, mais tardive. Chanteuse populaire, adoubée 25 ans après ses débuts par une presse intello, qui n'a pas toujours été tendre. Je pense notamment à Didier Varro, qui depuis vous accompagne et qui est un des grands manitou de la musique à France Inter aujourd'hui. Bon, sans tout déflorer tout de suite, je voudrais d'abord savoir, Sheila, comment est-ce que vous avez vécu cette période qui vient, on espère, de se terminer.
Alors, la période du confinement, évidemment, ouais. Comme je suis quelqu'un qui bouge beaucoup, qui part tout le temps, qui est toujours avec une valise prête pour aller quelque part, évidemment, j'ai à la fois était très, très, très coincé, très pas bien, très pas respiré. Mais bon, j'habite à la campagne, donc je vais pas me plaindre. Mais simplement, moi, je vais quand même considérer que c'est une époque bénie parce que j'ai enfin réussi à finir cet album sur lequel je travaille depuis 4 ans. Donc, ça m'a permis de partir. Ludovic Barnoin, qui est mon manager, et Eric Hazard, qui est le réalisateur. On est partis tous les trois. Hashtag est venu nous rejoindre après et on est partis en Belgique.
Qui est Hashtag?
Hashtag, c'est le groupe qui m'accompagne.
D'accord.
On est partis en Belgique et retrouver le studio ICP, qui est un endroit magique que je ne connaissais pas, qui m'a fait découvrir Ludo. Et voilà. Et enfin, on a fini cet album sur lequel j'ai ramé comme un chien pendant tant d'années.
Il y a eu des déclics pendant cette période, en tout cas des choses que vous avez pu libérer ou...
Libérer, non, c'était déjà libéré. Vous savez, l'idée, je la porte depuis longtemps. Après, évidemment, je suis passée à travers plein de gens, plein de branchitude, de pas branchitude, d'idées, de pas d'idées. Et au bout du compte, je voulais absolument aller dans ma direction et être aller près de ma vérité. Et voilà, je suis fière, c'est d'avoir été bien accompagnée par, en réalité, les deux personnes qui m'accompagnent de plus près. Et surtout d'avoir réussi, voilà, aller jusqu'au bout de l'idée que j'avais, parce que c'était mon cœur qui parlait.
Et à suivre votre vérité, donc, comme vous le dites, ce que vous n'avez pas toujours pu faire dans votre carrière
professionnelle. Après, c'est différent. Là, c'est un choix. Vous savez, comme vous le disiez tout à l'heure, je vais faire 60 ans de carrière. Donc, évidemment, déjà, je me dis, mais où sont passés ces 60 ans? C'est pas possible. Ils se sont trompés dans l'addition. Parce que moi, j'ai déjà l'impression d'avoir que 40 ans, donc c'est un peu compliqué. Mais voilà, j'ai fait tellement de choses qu'à un moment, il faut aussi prendre le temps, il faut aussi faire un point. Et vous savez, je pense que cette idée, je l'ai eue il y a longtemps. Mais, le temps passant, puisque ça a été plus long que prévu pour le faire, j'ai évidemment, comme tout le monde, perdu des amis. Et je me dis que peut-être que c'est un moment de dire, en tous les cas, j'avais envie de chanter un peu ma vie, laisser ma vie en chanson. Voilà.
On va y revenir de long en large sur votre vie. Est-ce que vous avez quelques premiers souvenirs à nous raconter, des bruits, des odeurs, des couleurs?
Ah ben moi, ça me vient tout de suite, j'adore le lilas. C'est l'odeur du lilas. Ma grand-mère avait une petite maison à la campagne où il y avait un énorme lilas et mon grand plaisir, c'était de le... J'y allais avec mes parents de temps en temps. C'était de le couper, à l'époque où ça fleurit, évidemment, et de ramener ça à l'école. C'était mon gros bouquet que j'amenais à l'école, à la maîtresse. Voilà, un souvenir d'enfance, par exemple.
Vous étiez une petite parisienne du 13e arrondissement?
Ouais, j'ai grandi dans le 13e, mais la petite maison qu'avait ma grand-mère était du côté de la forêt de Sénart. Ce qui est drôle, c'est de voir tout ce qui s'est passé en tant d'années, parce qu'en réalité, à l'époque, aller à la forêt de Sénart, ça prenait 3 heures, c'était comme si voilà. Alors qu'aujourd'hui, tout a été tellement surmultiplié que c'est surprenant.
Tout a été raccourci. Ouais. Vos parents, votre papa, alors je me suis posé une question un peu sociologique. Votre papa, il était boucher au tout début de votre vie et c'est un truc que vous aimiez pas trop dire. Un truc d'enfant
non,
ou c'était
non,
un truc...
Non, pas du tout. C'est pas que j'aimais pas. Non, mon père, vous savez, mon grand-père était ferrailleur. C'était un Auvergnat. Mon père est monté à Paris avec lui. C'est lui qui tirait les charrettes. Après, il est devenu tueur-oual. Après, il est devenu boucher. Il a pas su faire d'affaires. Donc après, voilà. Mais il a commencé dans la boucherie. Et en réalité, il s'est retrouvé dans les bonbons parce qu'il a accompagné ma maman. Parce que l'affaire des bonbons, ça appartenait à ma grand-mère.
Vendeuse de bonbons, c'est quand même chouette quand on est gamine, non?
Ah, c'est magnifique. Ah bah non, mais c'est magnifique. Les petits gâteaux, les boîtes, enfin bon, voilà. Après, vous savez, quand on vit là-dedans, en réalité, on en mange moins que prévu. Mais avant, on se gave, hein, faut le dire.
Votre album, il évoque des chamans. Enfin, vous avez une vie spirituelle assez riche. Et j'ai lu que ça venait en partie peut-être de votre grand-mère, de votre arrière-grand-mère, Eva. Ouais. Vous l'avez connue ou...
Non, je l'ai pas connue. Non, je l'ai connue sur le tard parce que j'en parlais souvent à ma grand-mère, parce qu'elle me disait que ma grand-mère m'a expliqué sa vie. Et si vous voulez, à l'époque, la fameuse Eva, mon arrière-grand-mère, était quelqu'un qui avait des dons, qui soignait les gens par les plantes, qui faisait de l'écriture automatique la nuit. Et donc, à l'époque, puisque là, on était dans les années 1800, et évidemment, elle passait pour une sorcière. Donc, ma grand-mère me racontait toujours qu'elle vivait les volets fermés, ils habitaient dans les Vosges, et ils recevaient des cailloux, des trucs, parce que c'était une sorcière. Alors, quand j'étais enfant, ça m'a pas passionnée, mais en grandissant, j'ai évidemment cherché à savoir qui était cette fameuse Eva.
Elle a l'air assez incroyable. Ça rejoint beaucoup le mythe des sorcières qu'on évoque ces dernières années. Ces femmes qui avaient un savoir-faire incroyable.
C'était, c'était surtout qu'elle était, elle était douée. Voilà, elle soignait les gens et tout. Et à l'époque, c'était très mal vu. Aujourd'hui, on dirait que c'est quelqu'un, au contraire, qui magnétise, qui est en connexion avec les médiums. Enfin bon, aujourd'hui, on la porterait peut-être au nu. Mais bon, à l'époque, non.
Vos parents, ils vous ont quand même pas mal toujours encouragé dans votre dans vos passions. J'ai vu qu'ils vous avaient payé des... Vous n'étiez pas riche, hein, ils vous ont payé des cours de danse, de piano.
Ouais. Ma maman, je pense que c'était l'artiste de la famille. Elle chantait excessivement bien. C'était un peintre aussi. Et je crois qu'elle a été frustrée par ma grand-mère. Donc moi, comme je suis née en étant vraiment faite pour faire ça, je pensais qu'à ça, je me déguisais, j'adorais faire des tas de choses. Ma maman m'a fait faire de la danse classique et puis du piano, comme vous le disiez. Et donc, je crois qu'ils m'ont pas en tous les cas frustrée. Ils m'ont laissé aller où j'avais envie d'aller, tout en surveillant évidemment la petite fille que j'étais.
Mais vous avez arrêté l'école pour en disant moi je vais vendre des bonbons, puis avec une idée très forte derrière la tête.
Oui, bien sûr. Mais moi j'étais bonne à l'école. Hein, j'ai toujours bien travaillé. J'adorais l'école. Mais bon, moi c'était l'époque des années 58-60. Et moi j'avais qu'une envie en fait, parce que j'ai voulu faire du cirque, j'ai voulu faire première danseuse de l'opéra. Enfin, j'ai voulu faire des tas de trucs dans ma vie.
Plein de choses que vous avez rejoint de petite manière plus tard dans
exactement.
Votre carrière.
Ouais, parce que c'est voilà, je suis passionnée par ça. Et donc je m'étais dit que en réalité en arrêtant l'école et en allant aider mes parents parce qu'ils avaient beaucoup de travail, c'était une opportunité pour moi d'avoir un peu plus de temps et de pouvoir aller fouiner à droite et à gauche pour voir ce qui se passait dans les hangars de Alfortville, parce que c'était dans ce coin-là où il y avait tous les groupes à la mode qui jouaient.
Et c'est Guitar Brothers avec lequel vous êtes lié. Justement, ça s'est passé dans un hangar de Alfortville. Je crois qu'il y a une histoire de copains.
C'est exactement ça. J'ai été dans un endroit où tout le monde répétait. Il y avait les Shadows. Ça vous dit rien vu l'âge que vous avez. Mais enfin bon, c'était les groupes à la mode. Et j'ai donc expliqué que j'étais chanteuse, que je cherchais un groupe pour être avec moi. Et c'est comme ça que j'ai découvert ce groupe qui s'appelait les Guitar Brothers. Et voilà. Et je suis devenue la chanteuse du groupe.
À 16 ans, vous étiez un bébé. Maintenant, ouais. quand vous y pensez, maintenant, vous dites pas, mais j'étais un enfant.
Ah mais bien sûr, parce que si vous voulez, 16 ans aujourd'hui, on est majeur presque, les filles elles sont complètement libérées et tout. 16 ans dans les années 60, c'était comme 12 aujourd'hui, c'est-à-dire qu'on était des petites filles. Alors moi j'ai toujours été un garçon manqué, hein. C'est-à-dire que j'ai eu beaucoup de copains, j'étais une débrouillarde comme on dit, parce que je trouvais les trucs, je fouinais, voilà, j'étais quelqu'un qui allait de l'avant et j'ai toujours été comme ça, c'est mon tempérament.
Les gens vous trouvaient très très sérieuse quand même, avec un but en tête.
Oui, mais moi, ce que je vous disais, j'ai reçu une magnifique éducation de mes parents, mais disons que j'étais quelqu'un qui respectait les règles. C'est-à-dire, moi, on me disait, tu rentres ce soir à 8h, c'était ce soir à 8h. Tu fais pas ça, je ne faisais pas ça. Donc, je pense aussi que c'est pour ça que mes parents m'ont laissé un peu plus de liberté, parce que j'étais quelqu'un qui respectait les règles.
Maline, donc.
Ouais, non, mais c'est dans mon tempérament,
ouais,
moi, si vous me dites.
J'allais dire, sinon c'est malin pour aller au... Pour
ouais, c'est malin, mais je crois que je suis pas assez vicieuse pour ça. C'est-à-dire que moi, non, mais sans rire, c'est vrai. Je pense que moi, voilà, j'aime être à l'heure. Voilà, c'est mon éducation, c'est comme ça. Mais il n'y avait pas d'idée derrière la tête, je crois pas.
Pensée.
Non.
En tout cas, c'est là que vous vous faites repérer par l'homme qui a ensuite occupé 20 ans de votre vie, un peu plus,
ouais.
non sans dégâts parfois. Claude Carrière. C'était Carrière. Je suis désolée pour cette erreur. Claude Carrière, qui vous remarque pendant une audition dans un lieu qui s'appelait le Golfe de Rouault. Alors, c'était des tremplins qui avaient lieu, comme quoi les tremplins, c'est vraiment tout sauf nouveau. Et c'était une idée soufflée par Johnny Hallyday, cet endroit.
Alors Johnny Hallyday y est allé, ouais. Eddie Mitchell, les chats sauvages, tout le monde allait là-bas, c'était l'endroit.
L'idée d'en faire un tremplin plutôt.
Voilà, ouais. l'idée d'en faire un tremplin, je ne sais pas si elle vient de lui, en tous les cas il y avait Henri Leproux qui s'occupait de cet endroit qui était magique. Et moi en réalité j'ai pas chanté là-bas, il y a un de mes musiciens qui y est allé, enfin un des garçons, qui est allé en lui expliquant qu'il voudrait venir, qu'il y avait une chanteuse. Et vous savez, c'est pour ça que c'est le destin, il n'y a pas de hasard, c'est quand ça doit arriver, ça arrive. Et Claude Carrère qui était un chanteur qui n'avait pas vraiment réussi, avait décidé d'essayer de faire autre chose et de s'occuper d'une fille. Et c'est en parlant à Henri Leproux qu'il a découvert que, voilà, moi j'étais là. Il est venu m'auditionner Il est revenu le lendemain avec Jacques Plaix, qui était directeur artistique de la maison de disques Philips à l'époque. Et voilà, et j'ai passé mon audition. Ils ont signé un contrat avec mes parents 8 jours après.
Pour 10 ans, c'était un contrat quand même qui vous engageait.
Enfin, moi, j'ai même pas vu le contrat. Ouais, moi, j'étais tellement loin de la majorité, c'était 21 ans à l'époque. Donc, moi, j'en sais pas. Moi, on m'a dit, tu vas chanter. Donc déjà, c'est comme le rêve d'une enfant qui se réalise. Vous savez, c'est la Belle au bois dormant, Cendrillon, enfin voilà quoi.
Vous vous rappelez justement la réaction de vos parents ? Est-ce qu'ils étaient un peu inquiets ? Est-ce qu'ils étaient avant tout fiers ?
Bah, inquiets, ils l'ont été, certainement. Ils m'en ont pas parlé. Ils faisaient très attention, ils surveillaient tout.
Parce que vous avez habité longtemps chez eux, même après ça.
Oui, parce que moi, j'avais ma vie de famille. Je restais, voilà. Et puis, j'avais que 17 ans. Donc, bon. Moi, je pense qu'ils savaient pas le problème de mes... Enfin, le problème, c'est pas un problème, mais à l'époque, ce métier tel qu'il est aujourd'hui n'existait pas. C'est-à-dire qu'ils savaient même pas ce que c'était qu'un contrat, ils savaient pas ce que c'était qu'un avocat, ils connaissaient rien. Donc, voilà, ils m'ont fait confiance. Ils ont fait confiance à Carrère, qui a dû bien les embobiner. Je ne sais pas, je n'étais pas là. En tous les cas, il a fait son travail. Mes parents y ont cru et puis m'ont donné ma chance. Mais c'est là que c'est extraordinaire.
Oui, c'est un faisceau de choses assez folles. Mais ça allait hyper vite après ça. C'est-à-dire que vous passez à 16 ans de la gamine qui vend des bonbons sur les marchés. Un an plus tard...
Un an plus tard, je ne peux plus sortir.
Sortir de chez vous.
Ouais, je fais les gens enregistrent. D'abord, je lis Petite Sheila, qui est très moyen comme succès. Mon deuxième disque étant L'école est finie. Il va se trouver que...
L'école est finie,
et là, pour le coup, pour moi, c'est synonyme de perte de liberté. Alors, c'est synonyme, évidemment, de succès, de toutes les petites jeunes filles qui s'habillent, qui mettent des couettes, qui s'habillent avec une jupe écossaise et un petit chemisier blanc. Donc, c'est à la fois magnifique, et à la fois, j'ai découvert ce que c'était que la peur de la foule à ce moment-là. Et depuis, j'ai peur de la foule.
Ah, vous avez des souvenirs marquants de
Ah ouais, ouais, parce que on se retrouve, c'est l'époque des idoles, hein, donc il y avait pas que pour moi, il y avait Johnny, c'était pareil, mais on peut plus sortir. On est poursuivi tout le temps, il y a des gens qui vivent sur votre paillasson, qui vivent dans votre parking, c'est très oppressant, ça fait peur quand on n'a pas l'habitude. Moi je me suis retrouvée une fois à faire des photos, je me rappelle à la foire du Trône. Où en l'espace de 30 secondes, ils ont appelé les flics parce que tout le monde voulait avoir un souvenir. Donc, ils t'arrachent un bouton, deux boutons.
Ouais, et le corps, retrouver... il déchire. Ils écartent.
Juste pour un souvenir. Et ça, depuis ça, j'ai peur, quoi. Vraiment.
Oui, c'est compréhensible. Et de cette ascension absolument fulgurante, j'imagine qu'il reste finalement un peu... Ça doit être très flou maintenant.
Flou, c'est-à-dire que vous savez, je crois que quand j'ai démarré, en réalité, ça a été tellement vite. Moi, je connaissais pas du tout ce métier. Donc, j'ai passé mon temps à essayer d'apprendre, mettre derrière une caméra, à répondre à des interviews, à répéter mes chansons. Moi, en réalité, j'ai pas vu le jour. Moi, je suis une besogneuse. J'étais quelqu'un qui a appris. Parce que je ne savais pas, j'ai suivi les directives du producteur que j'avais, qui a été bon quand même, faut rendre à César ce qui est à César. Et j'ai appris, et moi comme je suis quelqu'un qui est très respectueuse du travail bien fait, mais j'ai rien vu. Parce qu'après l'école est finie, il y a eu première surprise partie, il y a eu pendant les vacances. Après j'ai enchaîné pendant presque les 10 premières années que des chansons qui ont été des tubes.
Ouais.
Et... Donc c'est magnifique. J'ai fait un film, Bang Bang. Enfin bon, ça a été tellement vite et j'ai eu tellement de choses à apprendre et à faire qu'en réalité, je me suis rendu compte du succès et de la carrière que je commençais à avoir que beaucoup plus tard. Je me suis rendu compte de rien parce que je travaillais. Et ce que je trouve extraordinaire dans ce métier, c'est que on dit qu'on travaille, mais en réalité, moi, j'ai jamais eu la sensation de travailler. C'est pour ça que 60 ans après, je me dis, mais où sont ces 60 ans? Parce qu'en réalité, j'ai grandi dans quelque chose que j'adore, que je ne fais qu'avec plaisir et qui... alors après, il y a tout l'envers du décor. Mais moi, vous savez, il faut se rappeler des belles choses. Alors après, mes rapports avec Carrère, c'est autre chose. Mais disons que, voilà, moi, j'ai eu la chance de connaître ce qu'on appelle la gloire rapidement. Et
ce qu'on appelle la gloire, c'est marrant.
Et puis en réalité, rester dedans pendant des années, quoi. Et avoir, au milieu de tant d'années de carrière, toujours au moment où ça commence à risquer de tomber un peu, une chanson qui arrive qui fait que ça repart, quoi. Voilà.
Mais il disait quand même, je la tue en répétition pour que quand elle soit sur scène pour de vrai, elle ait l'impression d'être en vacances.
C'est vrai.
Voilà, c'est pour donner le
de ah bah non, mais de, non, de, mais de... c'est non, mais moi j'en ai
pas que du plaisir.
J'en ai chié. Ouais, ouais. Mais c'est pas grave, c'est voilà, il fallait que ce soit bien. Moi, c'est pas le travail qui me fait peur, donc après j'étais très fatiguée. Je pense que c'est aussi pour ça que je suis tombée malade dans les années 63 lors de ma première tournée, parce que en effet, je travaillais 18 heures par jour, et quand t'as 18 ans, 17-18 ans, bah il y a un moment ton corps ne tient plus. Voilà.
Cette première tournée, elle a été assez décisif, puisque à la fin de cette première tournée, vous tombez malade. Mmh. À l'époque, en fait, ça, je sais pas exactement, mais c'est au niveau de votre utérus ou enfin c'est
non pas du tout, ça n'a rien à voir.
Féminin. C'est la
oui, c'est un truc féminin, ouais. Mais ça n'a rien
à
voir.
Je pensais que ça avait, parce que vous disiez, j'ai eu mes règles pendant 6 mois.
Non, mais j'ai eu un dérèglement hormonal, ce qui n'a rien à voir avec le reste.
Qui a déclenché rumeur sur laquelle vous écrivez encore aujourd'hui dans le dernier album.
Ouais. C'est-à-dire que c'est... Non, ce qui a déclenché ça, c'est le fait de dire que je prenais des hormones mâles parce que, voilà, moi j'avais un dérèglement. Donc bon, ce qui arrive à n'importe quelle jeune fille qui fait des concours, qui travaille trop, enfin voilà, bon. Donc, mais ce qui s'est passé, c'est que Carrère en a parlé à un garçon qui s'appelait Gérard Duvillier, qui
était l'auteur de SAS.
Voilà, qui était pigiste à l'époque à France Dimanche. Et d'un commun accord, tous les deux ont décidé de faire un titre avec Sheila devient un homme. Après, ça a été Sheila est un homme. Après, c'est Sheila était un homme. Elle s'est fait opérer pour devenir une femme. Enfin bon, d'où cette chanson La Rumeur, parce qu'on revient à ça, parce que le reste, voilà, c'est passé. Mais oui, je voulais en parler. Je voulais d'abord, ça, comme c'est l'histoire de ma vie, cet album, c'est tout ce qui a été important dans ma vie. Je pouvais pas passer à travers, parce que moi, ça m'a poursuivi pendant tellement d'années. Ça, je le répète, j'ai un peu l'impression de radoter, mais c'est pourtant la vérité. Ça a pourri la vie de mes parents, la vie de mon fils, la mienne. Enfin bon, voilà. Donc, mais je vais faire court là-dessus parce que c'est. Mais je trouvais que c'était important à l'heure des réseaux sociaux, des FaceTime, des Facebook, des TikTok. Enfin, moi, je suis pas une spécialiste de tout ça, mais je trouvais que c'était important de prévenir les gamins qui n'ont aucune notion de ce que peut faire une rumeur. Et je, par expérience, s'il y a bien quelqu'un qui peut en parler, c'est moi. Je voulais simplement qu'à travers une chanson, à travers ma propre expérience, ils puissent entendre le fait que c'est vraiment quelque chose qui détruit un être. Et ça détruit un être de par la, surtout aujourd'hui, la rapidité. Parce qu'en une journée, vous êtes mort. On ne sort plus de chez soi parce que on a la sensation d'être sans arrêt épié. On vit comme un animal traqué parce qu'on sent les gens qui bavent derrière vous. On sent les quolibets, on sent les regards, on sent et on a peur parce qu'on a honte, parce qu'on sait plus que les gens où est la vérité, à qui vous pouvez parler. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, je dis aux gamins, c'est pas un jeu. Ça peut tuer quelqu'un et physiquement et moralement et voilà et psychologiquement.
Et à la fois, on n'a pas envie d'en parler tout le temps parce qu'on n'a aucune envie de remettre le sujet sur le tapis et en même temps, on a envie de dissiper le malentendu en permanence.
Ouais, mais on peut pas. Oui, mais malheureusement, on peut rien dissiper. Parce que vous avez toujours quelqu'un qui va partir de ce qu'on a dit et qui va évidemment en rajouter, parce que vous savez, c'est ça la rumeur. La rumeur, ah bah vous savez, on a dit ça. Puis celui qui dit, on a dit ça, mais on a rajouté ça. Et au bout du compte, ça fait une histoire qui n'en finit plus, quoi.
Et cette histoire, Claude Barrère, il n'a pas voulu y mettre fin.
Claude Carrère.
Excusez-moi.
Enfin, moi, je m'en fous. Personnellement, je peux l'appeler comme vous voulez. Hein.
Claude n'a pas voulu y mettre fin, voire même peut-être, vous l'avez dit, mais peut-être que vous vous êtes revenu là-dessus. Il l'a presque alimenté, quoi.
Ah, mais c'est pas qu'il a pas voulu mettre fin, c'est que surtout il a vécu de ça et il a. Moi, quand ça m'est arrivé, j'avais. Évidemment, j'avais 18 ans, mais 18 ans de l'époque, j'étais pleuré. Ou 17, je sais plus. J'étais pleuré dans les bras de ma mère en disant, mais c'est pas possible, mais c'est horrible. Parce que quand vous voyez dans toute la France, à la une des journaux, dans les kiosques, dans les tabacs, partout, c'est horrible quand on atteint votre féminité, on attend votre. Enfin, quelque chose d'intime, quoi. Et après, j'ai été voir Carrère en lui disant, mais
qu'est-ce qu'on fait?
Comment on fait? Et il m'a dit, mais laisse tomber, tant qu'on parle, c'est bon. On a bien dit que Sarah Bernard avait une jambe de bois. Donc, mais j'ai compris seulement il y a une dizaine d'années qu'en réalité, le bruit avait été provoqué par lui. Je l'ai jamais su. Parce que vous vous rendez compte? Alors après, ça va au-delà de dire c'est une rumeur. Après, ça vient dans l'humain et la relation humaine. C'est-à-dire que c'est au-delà de la trahison. Pour moi, c'est, ça n'a pas de nom. Voilà.
Et ça a été assez loin, parce que ce que vous n'avez pas pu sortir pendant votre grossesse, est-ce que ça faisait partie de ce plan, qu'on ne vous voit pas enceinte?
Ah non, c'est personnel, ça n'a rien à voir. Il y a longtemps.
Vous avez dit que si c'était aujourd'hui, vous vous seriez montré
à poil,
nu comme demi-mour.
Bien sûr. À l'époque, ça n'existait pas, c'était scandaleux. D'autant plus que c'était Sheila. Donc voilà. Mais c'est vrai. Mais ça venait plutôt de ce qu'était la rumeur. C'est-à-dire que je me cachais pourquoi? Parce que quand j'allais chez le coiffeur, les femmes, les parisiennes très branchées disaient que j'étais pas enceinte, que j'avais sous la peau du ventre.
Un petit coussin.
Une poche d'eau de mer.
Ah.
Ce qui est encore mieux. Voilà. Enfin voilà, donc tout ça, je ne le supportais plus. Donc c'est vrai que je me suis, au lieu de profiter du fait d'être enceinte, et là c'est le plus beau moment de la vie d'une femme, moi je l'ai vécu cachée.
Une des sans doute pires choses liberticides que Claude Carrère a fait à la carrière de Sheila, c'est de l'empêcher de monter sur scène pour défendre sa musique. Après sa première tournée éreintante, qui s'est donc achevée sur sa maladie, il n'a plus voulu la faire monter sur scène. Peut-être qu'il avait senti qu'elle lui échapperait. En tout cas, c'est ce qu'il a l'air de dire des années plus tard quand elle l'invite à fêter avec lui ses 40 ans de carrière. Il promettait et remettait toujours à plus tard. Plus de 20 ans sans faire de scène, de quoi alimenter une autre rumeur, celle que Sheila ne chantait pas vraiment. Une rumeur à laquelle elle a bien tordu le cou depuis les années 80. Arrive 68, la jeunesse s'émancipe et vous représentez un petit peu la France d'avant, à ce moment-là, de la France familiale. En tout cas, c'est l'image que Claude Carrère, je vais pas y arriver, je ne vais pas le dire une fois bien, que Claude Carrère...
J'adore l'idée, ça m'amuse beaucoup.
Je vais pas le dire une fois bien pour vous. C'est l'image qui veut donner de vous, même si ça évolue assez rapidement derrière. Mais à l'époque,
c'est une erreur. C'est pas l'image qu'il veut donner. J'avais une chanson qui avait été écrite par Monty avant qu'arrivent les événements de 68, qui s'appelait Petite fille de français moyen, qui correspondait bien à ce que j'étais. Voilà, j'étais la petite fille des familles, la France profonde. Enfin bon, voilà, j'étais une des rares qui chantait sans avoir quelqu'un dans ce métier, de la famille dans ce métier. Bon, mes parents n'étaient pas du tout là-dedans, donc, alors que toutes les autres avaient quand même quelqu'un qui était dedans. C'est un hasard. Il s'est trouvé qu'on a sorti ce disque et il y a eu tout de suite après les événements de 68. Mais ça n'a pas du tout été fait pour. Ça, franchement, c'est... Après, tout le monde l'a utilisé, évidemment, mais c'était pas fait pour.
Et vous viviez un peu de loin, parce que vous étiez quand même enfermé dans une certaine image. Est-ce que vous le sentiez à l'époque? Est-ce que c'est après que vous l'avez
Non, alors moi, je l'ai vécu. Bah, vous savez, on avait tous le même âge. Ceux qui étaient sur les barricades et ceux qui chantaient, c'était pareil. Alors moi, j'habitais dans le 13e, dans le 14e à l'époque, donc j'étais du côté du boulevard Arago, rue de la Glacière, enfin tous les coins où ça bougeait beaucoup. Et à l'époque, je me rappelle une Ford Mustang, donc évidemment. Mais ce qui est marrant, c'est qu'en réalité, il m'est arrivé de prendre une rue où il y avait, ça commençait à bouger, il y avait des manifestants, les jeunes et tout. Mais en réalité, on avait le même âge, donc il me disait non, passe pas par là, tu vas te faire démonter ta voiture. Et je faisais demi-tour. Donc je crois que c'était une espèce de révolution, pas disons une révolution, mais un côté lâcher prise des jeunes qui avaient envie d'avancer, de parler. Et je pense que tout ça, c'est venu en réalité du départ de nos chansons des années 60 et qu'après, les étudiants se sont mis là-dedans et c'est ce qui fait bouger la société. Mais je pense que ce qui est intéressant, c'est de voir qu'entre les années 60 et 70, c'est vraiment, vraiment la parole libérée pour les jeunes. Avant, vous savez, moi, quand j'ai démarré, on restait à la maison, on parlait pas, on était tous à table, c'était tu te tais et tu manges, quoi. Et c'est ça qui est insensé, c'est de se dire qu'aujourd'hui, tout ce qu'on a fait, nous, les chanteurs de l'époque, les yéyés, comme on dit, en réalité, c'est ce qui a fait ce qu'est ce métier aujourd'hui. On est des pionniers dans l'histoire de la musique, dans l'histoire de l'évolution de ce métier, des premiers producteurs, des premiers managers. Tout ça, ça n'existait pas avant. Il y avait des grosses maisons de disques avec des directeurs artistiques et des artistes qui étaient pris en main par une grosse maison de disques qui travaillaient pendant 15 ans avec des gens derrière qui les aidaient sans vendre.
Ouais.
Aujourd'hui, ça n'existe plus, ça. Si vous ne vendez pas tout de suite, vous êtes à la poubelle.
Oui, oui. Alors que là, il y avait quand même un petit peu de temps pour faire...
Ah, mais les carrières se faisaient comme ça. Aznavour, Beko, même Goldman, ces gens-là ont ramé et ont eu des gens derrière pendant des années qui y ont cru, même si ça ne marchait pas. Aujourd'hui, ça n'existe plus, ça. Aujourd'hui, c'est l'instant.
Mais j'ai lu dans une biographie qui est sortie sur vous en 2018 que ça avait quand même été... une période où vous aviez été beaucoup brocardé comme étant l'anti-mai 68, quoi. C'était la chanteuse du
ouais, parce que
patriarcat,
j'étais...
la chanteuse de ce qu'on veut.
Ouais, bah oui, bah, on peut tout dire. Hein,
non, bien sûr. Mais
c'est simplement parce que moi, j'ai toujours eu, dans mes débuts, l'image de la fille de famille, enfin la fille de famille, la fille de petite fille de français moyen, ça veut bien dire ce que ça veut dire, c'est-à-dire que les grands-mères auraient rêvé d'avoir une petite fille comme moi, les filles auraient rêvé d'avoir une sœur comme moi, j'étais un peu la cousine, j'étais celle qui défendait la bonne position de la France. Voilà. Après, moi je trouve que c'est normal qu'on parle et que c'est normal que... Vous savez, on a toujours été, et ça n'a pas changé, même aujourd'hui où on est quand même dans les années 2021... je pense qu'on est dans un pays où tout est dans des cases. On est incapable de décaser les trucs. Et ça, c'est ce qui nous fait ralentir. C'est-à-dire que, enfin, moi, je parle que de ce métier, mais quand même, il y a des cases. Et quand t'es dans ta case, t'as pas le droit d'en sortir. C'est aussi bête que ça. Et malheureusement, encore aujourd'hui, ça existe dans ce métier. Vous savez, moi, j'ai eu la chance de travailler avec les Américains et de travailler avec les plus grands. Je peux vous dire que là-bas, ça n'existe pas, quoi. Là, t'as l'accordéon. Après, t'as la petite chanteuse de français moyen. Après, t'as le branché. Après, t'as le parisien. Après, t'as... Non, mais c'est vrai.
Bien
et
sûr.
C'est très dommage, car ce métier est fermé à cause de ça.
Vous avez quand même justement réussi vraiment à en sortir de vos cases. Ça a pris du temps, mais...
Ouais, mais parce que je suis entêtée et que j'aime pas perdre. Donc, et puis que surtout, je trouve que c'est... c'est ridicule, quoi. Tout est ouvert. La vie est ouverte à tout le monde. Et même si on change... En plus... Pour moi, ce métier, c'est un métier où tu dois prendre des risques. Pas vis-à-vis de soi-même. C'est un métier, c'est pas la routine. On ne peut pas avoir de routine. On ne peut pas rester chez soi en se disant, j'ai vendu tant de millions de disques, oh là là, je suis génial, et se regarder le nombril. Enfin, en tous les cas, ce n'est pas ma conception de ce métier. Ma conception de ce métier, c'est d'essayer, de tenter, de se planter, de recommencer, mais d'avancer. Donc évidemment, je suis partie par Mons et par Vaux. Et des fois c'était très bien, des fois c'était un peu moins bien, mais moi je me veux, par rapport aux gens qui me suivent depuis tant d'années, je me veux de leur amener des choses différentes.
Vous avez un souvenir de quand justement vous êtes émancipée de Claude Charrière, pour vous faire
c'est
plaisir.
C'est bien aussi, c'est bien, j'adore, donc voilà. Quel bonheur. Donc alors... Non, alors, mais vous savez,
prend du temps, attends.
Ouais, non, mais ça prend du temps et pas du temps à la fois. À la fois, j'ai été bien endormie par, c'est-à-dire, j'ai manqué de rien. J'ai pas couché dans la rue. Mais si vous voulez, j'avais pas ma liberté. C'est-à-dire que, on ne me donnait pas mon argent. Donc, même si j'avais tout, au bout du compte, si je voulais m'acheter une Ferrari, je pouvais pas.
Fallait que vous demandiez, quoi.
Ouais, voilà. Donc, c'est ça. Moi, c'est une conception de la vie que je n'aime pas. Je suis quelqu'un de libre et j'ai toujours été libre. Et donc, et d'ailleurs, mesdemoiselles, comme conseil, la plus grande des richesses dans la vie, c'est la liberté. Retenez-le, c'est très important. Votre liberté. Voilà. Donc, ça, c'était une aparté.
Mais justement, votre liberté, comme vous l'avez dit.
Voilà. Et donc, ça m'a pris tôt. Hein. Vous savez, quand j'ai commencé, moi, je discutais, je m'engueulais, je râlais. Je suis une grande râleuse, je râlais. Voilà.
Tempérament de feu.
Ouais.
C'était
un peu pénible aussi de temps en temps, mais disons que voilà, je voulais aller au bout de mes trucs, je voulais faire de la scène, j'ai répété pendant des années sans jamais en faire. Enfin, j'ai bien été parce que moi je crois aux gens, donc évidemment je me disais ça va venir, et puis ça venait jamais. Et je crois que ce qui a été le dénominateur, c'est dans les années 70. 73 quand j'ai rencontré Ringo, quand je lui ai donné sa liberté, je l'ai aidé à réussir, et là j'ai commencé à mettre mes jalons. Après il y a eu les Bee Devotion et là là je suis rentré dans les comptes et là ça a été la guerre. Voilà, et ça a démarré là. en réalité.
Et justement, aller aux États-Unis, vous avez, enfin, la première fois que vous y allez, finalement, c'est assez tard. Et les États-Unis.
Oh, assez tard.
Bah, en fait, vous avez une vie tellement, vous avez une vie tellement chargée.
Oui, avant, ouais, pleine.
Pleine, c'est mieux. Avant, oui, que finalement, ça paraît tard par rapport au début de votre carrière. Mais en tout cas, c'est ça qui vous a permis justement peut-être de, enfin, en tout cas, de d'évoluer dans des cases complètement nouvelles et de.
Ah bah oui, mais ça c'était voilà, c'est aussi ce qu'on appelle le destin, la vie et l'essayer, parce que en réalité je chantais On le prend du l'Arche de Noé, On le prend du maman avec des enfants, le chien, le bouton, etc. Et j'ai entendu Love Me Baby, qui n'était pas du tout fait pour moi à la base, c'était un groupe, et quand j'ai entendu cette chanson, moi qui aime danser, bouger, je suis montée dans le bureau, j'ai écouté ça, j'ai dit non, ça c'est moi qui le fais, parce que voilà. Et l'idée, ça a été que, évidemment, étant la petite fille de Français moyen, dont vous m'avez parlé, je ne pouvais pas, il était impossible pour moi d'entrer dans les discothèques. Parce que mon image ne correspondait pas à ce qui se passait dans les discothèques et le lâcher prise et tout ça. Donc, on a décidé, j'en ai parlé, j'ai dit c'est pas possible. Si c'est chez là, ils vont même pas écouter, foutre au panier direct, parce qu'ils écoutent pas, quoi. Alors que si on monte un groupe, ben, ça va être génial, parce qu'ils sauront pas. C'est ce qu'on a fait. Ça s'est appelé SB Devotion à la base. Donc j'ai chanté au départ en phonétique, parce que je parlais très mal l'anglais. Et puis voilà. Et puis la chance qu'on a eue, c'est que ce disque est passé partout en Europe. Dans les discothèques, d'abord. Après, c'est passé en radio. Ça a été un numéro un partout. Et c'est seulement après que les auditeurs d'une radio ont découvert que c'était ma voix. Et voilà comment
rentre par effraction.
Ouais. Mais j'adore l'idée. Ça m'a beaucoup plu. C'est génial. Mais sinon, je serais pas passé. Sinon, je sais que ça se faisait pas. Que c'était pas possible. À cause du nom chez là.
Oui, il y a autre chose qui serait peut-être pas passée, c'est que vous étiez sur scène, enfin vous étiez avec les Devotion, c'était trois danseurs noirs.
Ouais, là c'est encore une autre histoire. C'est-à-dire que là, moi j'avais décidé de travailler avec un groupe, trois groupes de garçons de couleur, parce que ils dansent, parce que j'aime ce qu'ils font, j'aime ce qu'ils sont. Enfin voilà, moi pour moi ils soient blancs, jaunes, mais là j'avais décidé de prendre trois garçons de couleur. Et je peux vous dire que ça m'a valu, mais j'ai vécu des choses. Alors, on parle du racisme aujourd'hui. C'est très en vogue et très à la mode. Et
c'est aussi assez réel, mais
mais c'est réel. Mais c'est réel. Mais ce que je veux dire, c'est que c'était encore pire à l'époque. Parce que moi, quand je suis arrivée avec ces trois garçons avec qui j'ai vécu des choses extraordinaires, qui ont fait partie de ma famille, de ma vie, voilà, et que j'assume entièrement. J'ai vécu des trucs tellement incroyables. J'ai été boycottée de la presse, j'ai été boycottée de certaines télés. J'étais la blonde avec ces trois noirs, sous-entendu un peu la fille de joie. Je dirais pas le mot parce que voilà, mais c'est ça quoi. Et ça a été terrible. Et surtout, moi j'ai connu des gens qui disaient bah si tu viens manger avec nous, eux ils attendent dans la voiture. C'est-à-dire que ça va au-delà de le respect de l'être humain. Donc je me suis encore plus attachée à eux parce que moi je suis la défenseuse de l'opprimé. Et ça m'a tellement choquée que voilà. Et puis surtout, ce groupe avec qui j'ai travaillé, avec qui j'ai passé des moments extraordinaires, ça a été ma surprise partie à moi. Dans la mesure où ça a été la libération, je suis sortie.
Oui, vous êtes allée, ça, vous aviez.
Ouais, il y avait plus là le Carrère, il avait lâché
là,
le bride, voilà. C'était fini.
Et il y avait votre traductrice, votre attachée.
Ouais, j'avais comme je parlais pas bien l'anglais, j'avais une assistante qui était américaine, qui s'appelait Jane, qui était new-yorkaise.
Vous aviez un petit gang, quoi.
Voilà.
Petit gang de nanas.
Et moi, j'adore les gangs. Je suis une passionnée des gangs. J'adore les groupes, j'adore la vie ensemble, c'est quelque chose que, voilà, et même, vous voyez, aujourd'hui, je travaille avec Hashtag, on est un petit groupe, on n'est pas avec Ludo, on est peu. Mais alors, voilà, pour moi, c'est personne ne rentre, quoi. C'est la famille.
Et ce qui est intéressant, c'est qu'en parallèle, il y avait Nile Rodgers.
Lui, il est arrivé après.
Voilà, il est arrivé après, mais à ce moment-là, Chic commençait et eux, ils ont voulu se faire passer pour des Français à l'époque parce qu'ils avaient peur du racisme.
Ils ont voulu passer par des Européens, produire leur première production européenne parce qu'eux, à l'époque, c'était un groupe funk. Alors, ils avaient eu deux tubes, mais il restait un groupe noir funk. Parce que vous savez, aux États-Unis, c'est pas comme ici, mais presque. Et donc, ils voulaient passer par la première production étant une européenne. Il s'est trouvé que moi, j'avais Singing in the Rain, qui était un tube qui passait beaucoup à New York, dans la côte Est. Ils ont entendu, après Carrère a essayé de les contacter, lui il a parlé d'argent, eux c'est pas des gens, enfin Nile et Bernard n'étaient pas des gens qui étaient passionnés par combien ils voulaient. Et après, ils ont décidé de travailler avec moi parce que pour eux, c'était une opportunité d'avoir une première production sans toucher aux Américains, voir comment ça se passait. Et il s'est trouvé qu'ils m'ont fait l'album King of the World et que la première chanson qu'ils m'ont envoyée est en Spacer.
Qui est dingo.
Ouais, Carrère me l'a refusé en disant « c'est pas du disco ». Nile l'a envoyé balader en lui disant « t'es gentil, toi je te parle pas, je parle à l'artiste, à mon artiste ». Et moi évidemment quand j'ai entendu, j'ai compris tout de suite où il voulait m'emmener, c'est-à-dire ailleurs, parce que lui pensait que le disco était sur la pente descendante et il avait raison. Et voilà, et là c'est l'ouverture du monde entier pour moi, c'est des et c'est surtout une âme sœur.
Qu'est-ce que j'allais dire, c'est surtout le début d'une grande amitié.
Ouais, c'est 40 ans de notre vie à tous les deux et je suis la seule artiste qui est produite par Chic Organization. Je crois qu'évidemment, ça fait partie de mon histoire. Ça fait partie aussi de son histoire. Je crois aussi que c'est pour ça qu'il est tellement fidèle, tellement présent et qu'on a cette relation qui va au-delà de la musique. Nous, c'est pas de la musique, c'est d'amour.
Nile Rodgers, au cas où vous ne le connaissez pas tout à fait, c'est donc la moitié du duo Chic, celui qui vous fait encore chanter en 2021 que le fric, c'est chic. C'est le producteur, entre autres, de Diana Ross, Madonna, David Bowie, et celui qui est derrière la guitare de trois titres de Random Access Memory, des Daft Punk, dont Get Lucky, entendu à peu près partout dans le monde pendant 7 ans. Et pour le tout dernier album de Sheila, celui qui est sorti au printemps, il a écrit Law of Attraction. Il a écrit The Law of Attraction, qui raconte ses 40 ans d'amitié avec la chanteuse française. Et à ce moment-là, comment vous faites, parce que vous êtes quand même une jeune maman, il bourlingue avec vous, votre fils, Ludovic?
Ah, il a beaucoup bourlingué, bon, il a fait le tour du monde avec sa maman, lui, oui, il a bourlingué. Après, vous savez, moi j'ai une époque où j'ai vécu à New York pendant 2 ans, et je rêvais de vivre là-bas. Moi, si j'avais écouté... Si je m'étais écoutée, je serais restée là-bas, vive là-bas. Même si je venais à Paris, je vivais là-bas parce que j'adore cette ville. Après, j'avais un petit garçon qui était déjà un papa inexistant. Donc, j'avais un choix à faire où je le coupais de tout, où je restais en France. Et il avait au moins une famille construite avec des grands-parents, ce que j'ai décidé de faire. Donc, voilà. Donc, il a bourlingué avec moi. Il a beaucoup voyagé. Et puis, il avait son cocon familial qui était mes parents.
Qui restait comme la base solide.
Oui, bah, il fallait qu'il ait quand même une famille. Moi, j'étais quand même un pigeon voyageur. Donc, il fallait pour que se construire qu'il ait, avec sa maman, des gens posés.
Et donc, si on avance un petit peu dans le temps, 85, vous faites enfin, après du coup combien d'années ?
20 ans.
20 ans sans scène, vous remontez sur scène.
Mais après, c'était qui tout double, hein. Quelque part, les gens venaient pour voir si vraiment je chantais ou si c'était quelqu'un d'autre. Et donc, j'étais là, j'ai eu un spectacle qui était absolument magnifique, toute prétention mise à part. Non, ça a été un spectacle magnifique.
Et qui a été salué par vraiment toute la presse.
Ouais, ouais. Et c'était, voilà, c'était formidable. Et donc, j'ai réussi mon pari. Et j'ai fait ce fameux Zénith et ça m'a emmené en tournée après partout. Et depuis ce moment-là, donc depuis 85, je suis sur scène parce que ça m'a manqué, parce que j'aime ça. Avec un arrêt de 9 ans, voilà.
Oui, vous savez, pas très longtemps après, vous avez vécu une expérience, je pense, qui a un peu déterminé, en tout cas, toute une partie de voir votre vie après. C'est en 87, quand vous avez frôlé la mort.
J'ai fait une septicémie, ouais.
Après une péritonite, je crois.
Vous êtes vachement bien renseignés.
Ouais.
Il y a du boulot, il y a du taf.
La péritonite m'est restée vraiment très, très claire en moi. Est-ce que vous étiez déjà quelqu'un d'assez porté sur la spiritualité?
Alors, moi, je suis portée là-dessus à cause donc de ma fameuse arrière-grand-mère. Mais je suis portée là-dessus. Moi, j'ai toujours habité dans des maisons... vécu dans des maisons habitées où il y avait des bruits, où il y avait des esprits. Mais moi, j'adore ça. C'est un milieu où je me sens bien, en principe. Moi, je rentre si par exemple, je veux visiter une maison, je rentre, je sais tout de suite si elle est bien habitée ou mal habitée. Moi, il m'est arrivé d'aller voir des maisons où je suis ressortie direct. C'est, voilà. Après, peut-être, je tiens ça de mon arrière-grand-mère, j'en sais rien. Mais c'est vrai que ça m'a toujours passionnée. J'ai toujours, était attiré par ça. Alors évidemment, après cette septicémie qui m'a fait restée 4 jours entre la vie et la mort. Je suis passée de l'autre côté. Je suis revenue. Et
vous avez eu ce qu'on appelle une near-death experience.
Ouais, ouais, ouais. Donc, quand on revient de ça, évidemment, on est complètement différent. C'est que toutes vos bases, vos données changent dans la mesure où la gloire, c'est rien, l'argent, c'est rien, puis rien n'est rien. Parce que toutes vos données changent. Vous revenez d'un truc où vous dites, mais qu'est-ce qui se passe?
Vous avez vu quelque chose?
Ah ben mais oui, si j'avais rien vu, bien sûr que j'ai vu et enfin pas, c'est trop long, sinon on va faire 5h30 de d'émission. Enfin moi je veux bien, mais
ça, dites-moi tout le monde dit de la lumière.
Bien sûr.
Moi je suis terrifiée par la mort, donc ça m'intéresse toujours.
Mais comment? Mais la mort c'est une porte. C'est juste une porte. Après il y a une vie derrière, il y a monter dans la lumière, il y a rechoisir une autre naissance pour que votre âme redescende et grandisse. Vous savez, la vie... Oh là non, je vais pas partir là-dedans. Parlons de Sheila, excusez-moi.
Non, finissez juste cette phrase. Vous savez, la vie, dites-moi.
Mais la vie, c'est chaque vie, chaque passage sur cette terre ou chaque passage où vous devez aller est là pour vous faire grandir, pour vous approcher de la sérénité. La sérénité, c'est connaître tout dans son entier. Ok? Donc... Vous pouvez pas dire la mort c'est rien. La mort c'est un passage, ok? Donc un passage pour aller ailleurs, pour grandir encore. C'est pour ça qu'il y a des gens qui meurent à 100 ans, il y a des gens qui meurent à 40 ans, il y a des gens qui meurent à 60 ans, parce que dans cette vie-là, ils ont appris ce qu'ils devaient savoir. Mais je vais vous faire une thèse. Si vous me lancez là-dedans, faut pas.
Bah, vous en avez quasiment fait des thèses sur le sujet.
Ouais, j'ai écrit un livre qui s'appelle Les Chemins de Lumière, j'ai écrit plein de choses. Moi, je rêve de faire des conférences. Mais ça, c'est un autre sujet. Parce que c'est tellement passionnant et que si vous voyez les choses comme ça, votre approche de la vie, de l'instant, de la planète où nous vivons change. Alors, en tous les cas, jeune fille, n'ayez pas peur de la mort. La mort est une porte.
Est-ce que cette expérience aussi, c'est ce qui vous a poussé ou pas du tout à arrêter la scène, justement, ou à faire un break, sûrement.
Parce que, voilà, tout a été remis en question dans ma vie. Et en 89, je voulais sortir un album et je me suis retrouvée dans la situation d'être Sheila, donc quand même avec des...
C'est marrant. C'est vraiment une autre d'être cette personne, Sheila.
Non, mais, bah oui, mais.
Ce n'est pas tout à fait vous.
Si, c'est moi, mais bon, en même temps, voilà, j'étais quelqu'un qui avait vendu des millions de disques, etc. Et quand je voulais sortir un album, j'allais voir des gens qui étaient devenus directeurs de maisons de disques, que j'avais connus portant mes bandes, et qui me disaient, il faudrait me faire une maquette. Et moi, qu'est-ce que vous voulez, après tant d'années de carrière, il y a un moment, je trouve que c'est irrespectueux. Je pense qu'on peut quand même faire un minimum confiance et pas me demander de bien vouloir me faire une maquette pour savoir si... Donc, ça, vu ce que j'avais vécu avant, j'ai trouvé que tout ça avait tellement peu d'intérêt, qu'on oubliait l'être humain, qu'on respectait plus rien et tout. Et j'ai dit stop, j'arrête. Mais j'arrêtais. Tout le monde a trouvé que c'est une très mauvaise idée. Mais j'arrêtais parce que je trouvais que c'était important. Je fasse le point, que je me retrouve, que je sache où j'en étais, parce que Sheila, c'était une machine bien huilée, mais moi, Annie, j'étais paumée au milieu de tout ça, je supportais plus rien, je m'étais perdue, et moi, je ne peux pas faire ce métier sans mon cœur. Donc, j'ai dit stop, j'arrête. Je me suis arrêtée pendant 9 ans, et là, j'ai découvert autre chose que je ne savais pas, parce que tant que vous êtes dans la lumière, tout le monde vous aime. Le jour où vous n'êtes plus dans la lumière, tout s'arrête.
Les gens s'en vont.
C'est-à-dire que vos meilleurs amis, ceux qui vous ont encensé, ceux qui vous ont fait des bisous, qui vous ont dit oh combien vous étiez merveilleuse, s'en vont, disparaissent, ne vous appellent plus, et voilà. Donc
on fait le tri à défaut.
C'est bon, on n'a même plus le tri à faire. Le tri il se fait tout seul, il y a plus personne. Donc comme ça, non. Par contre, on voit ceux qui restent, et croyez-moi, ils sont pas nombreux. Alors on apprend à être seul. Ce qui, pour moi, j'avais 16 ans quand j'ai démarré, on était en 89, donc vous voyez l'âge que j'ai. Et d'un seul coup, vous vous retrouvez seul avec vous-même, ce qui est très intéressant. C'est dur d'être face à soi-même. C'est compliqué de s'accepter, de comprendre, de chercher à savoir. Et moi, grâce à cette période, j'ai appris déjà à voir où était la vérité. J'ai appris à voir que la gloire, ça ne correspond à rien, que c'est complètement éphémère. J'ai appris à à m'écouter. Donc, j'ai découvert que j'avais envie de toucher la terre.
Ouais, vous êtes de...
Voilà, donc j'ai fait de la sculpture. J'avais envie d'expliquer aux gens, parce que j'ai eu la chance d'avoir des maîtres dans ma vie, ce que ça m'avait apporté, comment ça m'avait fait grandir. Donc, j'ai commencé à écrire. J'ai fait 3 bouquins pendant cette période-là. Donc, moi, j'ai beaucoup appris, beaucoup grandi. Et quand je suis revenue en 96, je suis revenue pour faire de la scène à la base. Même pas pour faire du disque, pour faire de la scène, parce que moi, les gens me manquaient.
Mais d'ailleurs, vos derniers concerts avant de partir en 89, ils ont l'air... Alors, j'ai pas vu l'image, mais ils ont l'air complètement fous. C'est-à-dire que vous dites au revoir, les gens
pleurent. Ouais. Mais c'est incroyable parce que quand j'ai annoncé ça, à la base, je voulais juste plus faire de disques. Moi, je voulais continuer à faire des duos avec les potes et tout, à faire d'autres choses. Et voilà, je me suis rendu compte que c'était pas possible. Mais je ne pense, moi, je réalise pas vraiment quand on me dit vous êtes une icône. Moi, pour moi, ça ne veut pas dire grand chose. Mais moi, je chante. Voilà, j'essaie de faire plaisir aux gens. Et là, je me suis rendu compte que je leur faisais du mal en réalité. Mais ce qui est formidable, parce que vous savez, il y a toujours un bon côté, un mauvais côté. Alors, je leur ai fait du mal involontairement. C'était pas voulu de ma part. Mais je crois qu'à travers cette période, ils ont découvert qui était Annie. Parce que j'ai écrit, parce que je leur ai parlé, parce que j'ai eu un rapport avec eux qui n'avait plus rien à voir avec les chansons que je chantais. Et là, notre relation a changé. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, je pense que j'ai un rapport humain avec les gens qui est tellement différent. Ça passe plus à travers une chanson. Ça passe à travers une conversation, je suis quelqu'un à qui on confie ses malheurs, à qui on parle, à qui des jeunes qui m'écrivent à l'époque du sida. Enfin, je...
Oui, vous moi, êtes j'ai beaucoup traversé... engagée aussi. Pour
ouais, j'ai traversé des choses de vie avec les gens.
Oui, bah de toute façon, c'est ce qu'on disait tout à l'heure. Vous avez changé de public au fur et à mesure aussi, mais vous avez vraiment accompagné les gens. Et bon, ces derniers concerts, moi, j'ai vu que les gens ils calculaient, en tout cas dans vos techniciens, et tout, combien de temps vous étiez capable de chanter. Je suis venue vous dire que je m'en vais de Gainsbourg. Premier jour, c'était 1 minute, et puis le dernier jour, il n'y avait pas la moindre phrase qui est sortie, et puis c'est public qui a chanté avec vous.
Oui, qui avait écrit un texte pour. Ouais.
Le public qui avait collectivement écrit un texte pour. Ça doit quand même être des moments.
Mais émotionnellement. Émotionnellement, c'est là que ce métier est très extraordinaire, c'est-à-dire que dans la plus grande et la plus belle des histoires d'amour, on ne peut pas connaître
ça. Vivre ça.
C'est
ouais.
juste, vous savez, c'est ce métier où il est intéressant, c'est un métier d'énergie. C'est-à-dire que moi, j'essaie de donner de l'énergie aux gens et j'en ai, Dieu me préserve, à revendre, mais ils m'en donnent. Et c'est ce qui est incroyable, c'est de se dire que sur une scène, moi, j'ai pas 20 ans, je fais 2 heures de concert où je fais plein de choses, je chante, je danse et mais si vous voulez, je suis portée par les, à la fin, en réalité, moi, on peut rester une demi-heure de plus parce qu'on est sur coussin d'air. Vous voyez, c'est des échanges d'énergie. On n'est plus dans la compétition, dans rien. On est juste dans l'amour.
Mmh. Et c'est ça qui est. Ça sort même de votre corps, quoi. Enfin, vous êtes.
On est plus soi. On est autre chose. Et ça, c'est le côté magnifique de ce métier.
Mais vous avez l'impression qu'ils aiment Sheila ou que Sheila est une émanation de vous que qu'ils aiment. Enfin, dans quelle mesure
c'est compliqué, tout ça. J'en sais rien. Après, moi, je me réfugie derrière Sheila. Si vous voulez, Sheila, elle pleure pas. Donc voilà, j'ai décidé que c'était comme ça. Je m'en suis rendu compte sur le tard, en réalité. Mais j'ai découvert en réalisant ma vie, qu'en réalité, je me réfugie derrière la chanteuse que je suis. Mais tout ça, c'est un tout.
Mais d'ailleurs, vous dites que vous réfugiez derrière Sheila et dans les moments les plus difficiles, quand vous avez perdu notamment vos deux parents à un intervalle très court, Sheila a été pour le coup un vrai refuge. Vous êtes montée sur scène très vite après.
Ouais, un mois.
On a l'impression que c'est impossible, alors qu'en fait, pour vous, c'est la seule solution.
Ouais. C'est qu'on se dit, tout le monde m'a dit, bon, on va arrêter, on va déprogrammer, parce que c'était pour mes 40 ans de carrière, on va déprogrammer et tout. Et moi, connaissant mes parents, je ne pouvais pas. Mes parents, ils auraient jamais accepté qu'on annule quelque chose. Tu te dois d'être là, de faire ce que t'as.
Ah ouais,
ce que t'as à faire, quoi qu'il arrive, quoi qu'il se passe. Et je l'ai fait pour eux. Et c'est vrai que là, je m'en suis rendu compte il y a une dizaine d'années maintenant, mais c'est vrai que là, Sheila m'aide. Parce que si je suis seule, ça a été la même histoire pour Ludovic, si je suis seule, je m'écroule. Alors, encore plus pour Ludo, parce que mes parents, ils sont morts à 16 jours d'intervalle. Ouais. C'est terrible, mais c'est dans l'ordre des choses. Alors qu'un enfant, c'est pas dans l'ordre des choses. Donc là, c'est fini, tu meurs. Tu vis pourquoi ? Pour rien. Alors que, et c'est là que je me rends compte combien le fait de chanter, le fait d'avoir cette notoriété et ce nom, c'est important pour moi parce que je me raccroche à ça.
Votre fils, vous lui avez dédicacé, vous lui avez consacré une chanson dans le dernier album qui s'appelle Cheval d'Ambre.
Alors, Cheval d'Ambre, je voulais, évidemment, il était impossible pour moi de...
Parler de votre vie sans parler de lui.
Bah oui, parce que c'est une partie intégrante. C'est pour ça que vous parliez de la mort. Pour moi, il est là. Son âme est là, en tous les cas. Et donc, je voulais pas que ce soit, ça pouvait pas être une chanson, il fallait que ce soit autre chose que ça. C'est pour ça que j'ai demandé à quelqu'un qui s'appelle Christian Siméon, qui est un auteur de théâtre dramatique, moliérisé, d'essayer d'écrire quelque chose. Je l'ai vu, voilà, on a passé, on a ri, on a pleuré, je racontais, j'ai montré des photos, j'avais tellement besoin que ce soit comme si c'était moi qui écrivais. Or, moi, je n'ai aucune... Autant j'ai écrit des bouquins, j'en ai fait 7, autant dans les chansons, je me trouve... Enfin, j'ai des doutes, je me trouve pas bien, je ne sais pas. Et en tous les cas, quoi qu'il en soit, j'aurais jamais été capable d'écrire ça.
Celle-là.
Voilà. Et ce qui est merveilleux, c'est qu'il m'a écrit un texte, c'est au-delà de la beauté, c'est de la poésie pure pour moi. D'ailleurs, quand je l'ai lu, j'ai dit, mais tu me fais du Victor Hugo, parce que c'est quand même... On est proche de ça. Et j'ai eu la chance... d'avoir, pour cette chanson-là et pour La Rumeur, qui sont vraiment deux thèmes qui me tiennent à cœur, Philippe Rombi, qui en réalité, Philippe Rombi, c'est un monsieur qui n'écrit que des musiques de films, qui travaille avec Ozon, qui a fait Astérix, qui a fait des tas de choses, qui est, pareil, césarisé deux fois. Et j'ai tenté mon coup, je l'ai appelé, je lui ai demandé, je lui ai dit, écoutez, j'aimerais bien. Il dit, mais moi, je fais pas de chansons. Et il est très timide, en plus, j'adore Philippe, c'est un personnage qui est tout renfermé, qu'on n'entend pas, qu'on voit pas, qui est toujours dans sa musique, enfin bon. Et donc, je lui ai envoyé les textes, je lui ai dit, c'est des fois. Et voilà, ce qu'il a fait, c'est dire que les deux choses regroupées sont au-delà des chansons, c'est de l'émotion pour moi à l'état pur. Donc, j'ai été très chanceuse là-dessus. Et Cheval d'Amble, c'est une chanson qui, moi, évidemment, m'est personnelle. Mais je pense que chaque maman qui a traversé ce que j'ai traversé, c'est-à-dire l'insoutenable et l'improbable et l'invivable, se retrouvera. Parce qu'elle elle comprendra ce dont je parle. Parce que vous savez, quand il arrive un truc comme ça, quand on est maman, la question est, qu'est-ce que j'ai pas fait ou qu'est-ce que j'ai fait qui allait pas ? Parce que vous ne pouvez pas vous sentir...
dédouanée.
Ouais, vous sentez une responsabilité quelque part, alors qu'en réalité, vous n'êtes responsable de rien, c'est ce que je vous disais tout à l'heure, c'est sa vie. Mais ça reste votre bébé. Votre bébé, bah, vous dites qu'est-ce que j'ai pas fait qu'il fallait pas. Voilà, donc c'est compliqué.
Mais, et donc cette chanson, elle pourra parler à toutes
celles qui ont vécu ça.
Je pense
qu'elle elle parlera aux mamans qui, elles, comprendront le message, en tous les cas.
Et vous avez réussi à l'enregistrer
Ah non, ça c'est une autre histoire. Ça, j'ai mis 10 fois à le faire. Il n'y avait pas la fin. Ça a été compliqué. Mais au bout du compte, voilà, j'y suis arrivée. Mais ça a été compliqué.
Et ce rapport à la mort fait que... Alors, je sais que ce n'est vraiment pas le bon mot. Ce n'est pas que ça rend les choses plus faciles, mais est-ce que ça... Au moins, on se dit... Il aura une autre vie derrière. Oui, c'est juste un
non,
passage.
Non, vous dites pas. Non.
Ça, c'est le moment où on ne peut pas se le dire.
Elle me lance dans un truc, cette petite-là. Alors, non, c'est pas... C'est un rapport à la... Moi, je vous ai dit, je crois à la réincarnation. Donc, il est évident que pour moi... Ludo est parti parce qu'il avait fait ce qu'il avait à faire dans cette vie-là. Après, ça reste mon enfant, ça reste l'insoutenable et ça reste que c'est pas juste. C'est tout, parce que c'est pas juste. Après, moi, je sais que la porte, il est derrière la porte et que il va monter. C'est pour ça que j'ai fait cette chanson aussi et que j'ai demandé aux gens d'arrêter d'en parler, de raconter n'importe quoi, de juste se taire, parce que c'est le respecter et c'est le laisser monter pour qu'une fois en haut, il apprenne et qu'il redescende. Donc voilà, c'est ça que j'ai demandé et cette chanson est faite pour ça. Pour que les gens se taisent et arrêtent leur colibet.
Je veux dire, pour que les gens se taisent, qui est un peu derrière la rumeur aussi. Pour que les, ouais, gens, se
les gens se taisent. Taisez-vous.
Tous notre gueule.
Taisez-vous, voilà, c'est ça. Bon.
Ouais, c'est pas évident dans le monde dans lequel on vit. Les gens se taisent pas beaucoup.
Ouais, vous savez que le silence, des fois, c'est bien. Hein.
Et après 60 ans de carrière, justement, vous dites que vous les avez pas vus passer 60 ans alors qu'il s'est passé un milliard de choses. Comment vous avez. Justement, voilà, je pensais à un moment où vous avez dit, je sais plus où, que vous regardiez vos affaires en me disant, ah, faudra que je range quand je serai vieille.
Oui. Voilà. Mais c'est vrai.
Mais je pense.
J'entasse.
Voilà.
Alors, mon drame, c'est que j'entasse. Je suis comme ma grand-mère, j'entasse. Alors, déjà, j'ai pas entassé, parce que là, je fais attention, j'ai tous mes costumes de scène, presque tous. Ensuite, ben, j'ai la presse, tous les trucs que je garde, les photos, les machins. Et donc, bah écoutez, je me dis, je vais trier ça quand je serai une vieille dame.
Mais c'est quand, du coup ?
Eh ben, je ne sais pas. C'est ça, mon drame, parce que tant que je vais avoir... pour moi, une vieille dame, c'est celle qui reste à la maison et qui range chez elle. Moi, je ne suis jamais chez moi. Je n'ai pas l'intention d'y être, parce que quand même, si je suis honnête avec vous, quand je suis chez moi pendant plus de 3 jours, ça ne va pas, il faut que je sorte. Et je sors tout le temps, en réalité. Alors, ben, je ne sais pas. Alors, la chose que je me dis, c'est que j'ai une grand-mère qui a vécu 105 ans, donc j'ai encore un peu de marge. Après, si on en croit les choses avec la vie...
Vous allez continuer à entasser jusqu'à pendant un
temps. Ah bah non, bah je vais pas encore... Peut-être qu'à 105 ans, je chanterai plus quand même. Enfin, je sais pas, ou alors ça sera...
Ouais, ça m'a l'air mal parti, cette histoire.
Ça sera très chevrotant. Non, je sais pas. J'en sais rien. Moi, je prends les choses.
Comme elle dit.
Voilà, tant que j'ai une bonne santé, que je m'amuse, que je prends du plaisir à faire ça, je le fais. Le jour où ça va m'énerver, ça va me gaver, surtout que je pourrais plus, j'arrêterai. Parce qu'il faut savoir toujours s'arrêter avant le moment décisif.
J'ai une dernière question, Sheila.
Ouais.
Parce que vous avez répondu à notre question rituelle. Est-ce que vous avez peur de la mort ? Vous y avez grandement répondu. L'autre question rituelle qu'on pose à tout le monde, c'est est-ce que c'était mieux avant ? Ouais. Moi, elle me fait aussi pas mal cet effet-là, ces derniers temps, cette question.
Est-ce que c'était mieux avant ? Bah, c'est moi, pour moi, c'était mieux parce que j'avais 16 ans et que j'étais jeune et que...
Vous étiez moins libre.
Mais j'étais pas libre, je pouvais pas porter... Il y avait pas de jeans, on portait pas de pantalons, on se maquillait pas, il y avait des blouses à l'école, voilà. Bon, alors, il y a des bons trucs, il y a des mauvais trucs. Non, moi, la seule chose que je dirais, c'est... Où c'était mieux avant, c'est que on s'occupait de la planète. Ça, par contre, c'était mieux avant. On était moins égoïste, on s'occupait des autres, on partageait les choses. Et pourquoi c'était mieux avant ? Surtout parce qu'on se parlait. Oh, il n'y avait pas par écran interposé. Alors Dieu sait que les écrans, tout ça, c'est pratique, c'est génial. On sait tout ce qui se passe dans le monde, c'est fabuleux. Mais vous savez quoi ? Rien ne vaut un regard, rien ne vaut un bisou, rien ne vaut de donner la main à quelqu'un d'autre et rien ne vaut une conversation face à face.
Donne-moi ta main et prends la mienne en quelque sorte.
Et voilà.
Merci beaucoup.
De rien, à bientôt.
Vieille Branche est une émission de nouvelles écoutes, présentée par Marie Misset, mixage Laurie Galgani, réalisation, coordination et prise de son Marie Moreau. Si vous avez aimé cet épisode, n'hésitez pas à nous laisser des étoiles sur Apple Podcasts, à nous suivre et à nous écrire sur Twitter @_vieillebranche ou alors sur Instagram @vieillebranchepodcast.
À bientôt dans Vieille Branche.
Vieille Branche.